Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Malgré une résolution de l'ONU adoptée enfin à l'unanimité samedi dernier et qui réclame que toutes les parties cessent les hostilités sans délai pour au moins 30 jours consécutifs en Syrie, malgré la trêve humanitaire annoncée par les Russes, tous les jours de 9h à 14h à partir de ce mardi dans la Ghouta orientale, les combats n'ont pas cessé aujourd'hui dans cette zone de la banlieue de Damas, connue pour avoir été le fief de l'opposition au régime de Bachar al-Assad. Raids aériens, tirs de roquettes, pour les dizaines de milliers de civils qui y vivent, c'est l'enfer sur terre, pour reprendre les termes du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La guerre en Syrie va entrer dans sa 8e année, et comme chaque année à la même période, le constat est le même, celui d'une impasse, d'absence de solution politique, pas même militaire, y compris à long terme. Le conflit n'a pourtant plus grand-chose à voir avec ce qu'il était en 2001, mais justement, avec le temps, il est devenu plus complexe et plus vaste, tant les acteurs qui sont impliqués aujourd'hui sont nombreux et soumis à des agendas particuliers qui n'autorisent aucun espoir de règlement global. Bien au contraire, le pire est devant nous, disait il y a une semaine le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, devant les députés. Alors Syrie, le pire est devant nous. C'est la question que nous allons poser ce soir à nos trois invités. Denis Bochard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller pour le Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, ancien diplomate. Vous avez également été le directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères. Pour discuter avec vous, Caroline Galactéros, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de Géopragma, qui est un tout nouveau think tank qui se présente comme un pôle français de géopolitique réaliste. C'est un think tank qui vient d'être créé. Vous dirigez par ailleurs le cabinet d'analyse stratégique Planeting. Et puis troisième invité, Pierre-Jean Luizard, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient. Je renvoie à votre dernier ouvrage publié chez Talendier, c'était il y a quelques mois de cela, « Chiites et sunnites, la grande discorde en 100 questions ». Alors j'évoquais ce que disait Jean-Yves Le Drian il y a une semaine tout juste devant les députés à l'Assemblée nationale. Je vous propose de en réécouter un extrait.
La situation en Syrie se dégrade considérablement. C'est vrai aussi qu'à mon sens, le pire est devant nous. Et que s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, nous allons vers un cataclysme humanitaire. Cela est dû au fait que le processus politique est bloqué. Cela est dû aussi au fait que derrière le combat contre Daesh, qui est notre priorité, derrière le combat contre Al-Qaïda, qui est toujours présent, la guerre civile se poursuit. Elle se poursuit dans la Ghouta Est, que vous avez évoquée. Elle se poursuit dans la zone d'Idlib, où le régime bombarde ce territoire, 3 millions d'habitants, et elle s'est en plus aggravée du fait d'une dimension désormais régionale. L'incursion des Turcs dans la zone d'Afrine, l'incursion iranienne au-dessus du territoire israélien, bref, tous les éléments sont réunis pour une aggravation de la situation.
Pierre-Jean Luizard, vous venez d'entendre donc Jean-Yves Le Drian, c'était il y a une semaine. Est-ce que c'est un constat d'abord que vous partagez, constat de la situation sur le terrain et crainte d'une aggravation du conflit, si tant est qu'il puisse encore s'aggraver, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois le pire a été atteint en Syrie et semble-t-il ça n'est pas encore le cas.
Oui, vous avez raison. On a chaque jour le sentiment que le pire est arrivé et penser que le pire est à venir. On se demande effectivement ce qui attend les malheureux Syriens et au-delà les peuples de la région. Hélas, je partage tout à fait le constat très pessimiste de Jean-Yves Le Drian. Nous sommes, je pense, dans une situation où tous les acteurs politiques éventuels ne maîtrise plus aucun paramètre d'une situation donc qui est totalement hors contrôle parce que il manque deux acteurs essentiels pour qu'on puisse s'engager vers un processus de règlement politique, un État en Syrie. Il n'y a plus d'État. Il y a un régime qui ne peut pas faire partie d'un règlement politique après ce qui s'est passé, après son comportement. Et la société syrienne est durablement divisée sur un mode communautaire et prise en otage par des clientélismes venant de l'étranger, ce qui a eu pour effet d'aggraver les divisions entre les différentes communautés syriennes. Donc chacun a peur de l'autre. Et aujourd'hui, je ne vois pas qui aurait les moyens de juguler cet engrenage infernal.
Une situation totalement hors de contrôle, Denis Bochard, c'est aussi votre point de vue ?
Oui, tout à fait. Je pense effectivement que parmi les acteurs de plus en plus nombreux d'ailleurs qui se trouvent sur ce champ de bataille, aucun finalement n'a la maîtrise de la situation et contrôle qui que ce soit. Et je pense que c'est vrai, y compris d'un des acteurs majeurs qui est la Russie. Je pense que ce serait une erreur de penser que Bachar el-Assad est une marionnette qui peut être manipulée par la Russie. Un certain nombre d'éléments récents montrent que des tensions fortes existent entre Bachar el-Assad et la Russie. Et la Russie, bien qu'elle reste un acteur incontournable, effectivement, on n'a pas non plus la maîtrise totale sur le terrain.
Est-ce que le fait justement que ce cessez-le-feu, cette trêve humanitaire, donc qui a fait l'objet d'une résolution à l'ONU et également d'une forme d'injonction de la part de la diplomatie russe que cette trêve-là ne soit pas respectée aujourd'hui, notamment justement par les forces syriennes. Est-ce que c'est la preuve pour vous, Denis Bauchard, que le régime syrien n'est pas complètement, disons, aux ordres du gouvernement russe ?
Je pense que cette résolution qui vient d'être adoptée a peu de chances d'être mise en œuvre effectivement sur le terrain, ou peut-être que de façon très sporadique, pendant quelques heures, comme viennent de l'annoncer les Russes, pour une raison simple, c'est que à la fois on exige que toutes les parties cessent les hostilités sans délai et s'engagent immédiatement à assurer la pleine mise en œuvre de cette résolution, mais vous avez un paragraphe 2 qui affirme que la cessation des hostilités ne s'applique pas aux opérations militaires dirigées par l'État islamique et d'une façon générale par les groupes terroristes. Or, le régime, et je pense aussi les Russes, considèrent que la quasi-totalité des groupes dans la Ghouta orientale sont des terroristes.
Pour terminer ce premier tour de table avec vous, Caroline Galactéreuse, donc sur le constat d'une situation qui ne fait qu'empirer et qui empire d'autant plus qu'elle est de moins en moins contrôlée.
Moi, je pense, ce n'est pas seulement qu'elle empire, c'est qu'on est arrivé à un point d'exaspération des ambitions des uns et des autres, des puissances intervenantes et des acteurs plus directs. Et là, on est à un moment où finalement les États-Unis sont revenus dans le conflit, la Russie est toujours à l'appui des forces syriennes parce qu'il le faut, l'Iran aussi, mais on voit bien qu'il y a d'autres conflits autour qui rendent la situation très compliquée. Quant au terrain,
quand vous dites parce qu'il le faut, rien n'obligeait les Russes à intervenir dans ce conflit.
Mais bien sûr que si, leur légalisme, leur base, la sauvegarde de leurs intérêts, le fait que, de leur point de vue, un État souverain est un État souverain.
Mais c'est pas pour la ça légalité internationale, c'est pas une intervention non plus qui a été, comment dire, qui a
à
fait
l'appel
l'objet
du gouvernement. Alors que la nôtre ne l'est pas du tout, en revanche. Voilà. Nous, en revanche, on intervient parce qu'on a envie d'intervenir. On n'a pas été appelé au secours par un régime qui a quand même son siège encore à l'ONU. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian. Oui, le processus politique est au point mort, certes, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui mettent beaucoup d'énergie à pétarder, pour parler un peu vulgairement, ce qui a pu être obtenu à Astana et à Sotchi. Deuxième point, la guerre civile. Ça mériterait un immense débat. Quelle est la part de la guerre en Syrie qui est civile et quelle est la part de la guerre actuelle en Syrie qui vient de l'extérieur et qui a été nourrie de l'extérieur avec constance et méthode depuis des années. Et troisièmement, la dimension régionale, c'est pas nouveau du tout parce qu'en fait, depuis le début, en Syrie, comme il y a 20 ans dans les Balkans, l'ensemble du monde est à la manœuvre. Chacun avec des intérêts bien prosaïques dont les populations syriennes sont les otages et les victimes.
Alors peut-être pour parler justement d'une des zones de combat aujourd'hui qui est celle qui est la plus mise en avant du fait de cette urgence humanitaire, qu'est-ce qui se passe donc dans cette banlieue de Damas qu'on appelle la Ghouta orientale. Vous dites, Caroline Galactéreus, ça ne correspond pas à ce qu'on appellerait une guerre civile, c'est-à-dire qui se bat contre qui aujourd'hui. Est-ce qu'on est sûr de savoir qui sont les belligérants dans ces combats qui ont lieu, frappes aériennes, tirs de roquettes?
Mais si vous voulez, les civils sont toujours dans cette guerre depuis des années, mais comme dans d'autres auparavant et ailleurs. instrumentalisé par des groupes rebelles qui sont des groupes djihadistes qui ont juste envie de renverser le pouvoir syrien, tout simplement, le gouvernement syrien, et de prendre sa place. Donc ça, c'est une... On a du mal depuis le début de ce conflit, et je trouve ça dommage parce que ça nous empêche d'être vraiment efficaces, on a du mal à ne pas mettre sur un même plan un gouvernement légitime qui a certes des méthodes tout à fait radicales et dangereuses pour rester en contrôle de son territoire, et tout un tas de groupuscules, et il y en a eu jusqu'à plus de 100, hein, n'est-ce pas, qui sont tous des dérivés quand même d'Al-Qaïda et des autres, qui eux se servent de boucliers humains. Donc les civils sont pris au piège là-dedans, c'est ça qui est horrible. Faire quand on dit l'urgence humanitaire, il aurait fallu tout arrêter? C'est là qu'on vous dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? On ne réagit pas et on laisse le pays être pris?
Ces groupes-là, le régime syrien les qualifie de groupes terroristes, Pierre-Jean Luizard. Est-ce qu'il...
Oui.
C'est une qualification pertinente.
Le terroriste, c'est toujours l'autre, évidemment. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier le gouvernement de Bachar el-Assad de gouvernement légitime, même s'il a toujours son siège à l'ONU. Un régime qui utilise l'arme chimique contre sa population, qui détruit la seconde ville du pays, Alep, et qui bombarde, comme il le fait actuellement, la Ghouta, causant des centaines de morts, ne peut pas être considéré comme un gouvernement légitime. À ce titre, je pense que les groupes de rebelles, djihadistes ou non, sont, qu'on le veuille ou non, les héritiers des printemps arabes, hein, de ceux qui sortaient dans la rue en 2011-2012 et qui ont été pris dans un engrenage confessionnel par la politique de Bachar el-Assad, qui a été de confessionnaliser un conflit qui, au départ, était un conflit de revendication de la société civile. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'un côté un gouvernement légitime et des terroristes. Il y a une société fragmentée qui est instrumentalisée par des puissances étrangères, d'autant plus facilement qu'il n'y a pas d'institution étatique capable de recevoir d'ouvrir un espace public élémentaire pour pouvoir trouver une solution. Et ces parrains ne font qu'aggraver la situation, puisque chacun a pris en otage une communauté syrienne, qu'il s'agisse des Kurdes, des Alaouites, des Sunnites ou d'autres.
Est-ce que ça veut dire que du point de vue qui est le nôtre, par exemple, qui est le point de vue français, Denis Bauchard, il y a une difficulté peut-être aujourd'hui à se positionner dans un camp ou dans l'autre, s'agissant de ce qui se passe dans la Ghouta orientale?
Oui, tout à fait, parce que... il y a tout de même une évolution très nette depuis 7 ans que cette guerre dure, car effectivement au départ l'opposition était essentiellement une opposition modérée, entre guillemets, une coalition d'un certain nombre de forces qui très vite se sont radicalisées à partir des années 2012-2013, au profit d'une part, je dirais, de Daesh d'un côté, et au profit du Front al-Nusra, qui a pris un certain nombre de noms successifs. Si bien qu'actuellement, l'opposition modérée, qui avait effectivement plutôt la sympathie des autorités françaises, et en quelque sorte laminée, l'armée syrienne libre s'est en grande partie évaporée. Il reste peut-être quelques milliers de combattants, mais pour le reste, il s'agit de groupes salafistes financés par les pays du Golfe, notamment par l'Arabie Saoudite. Il s'agit aussi du groupe al-Nusra, du Front al-Nusra, qui a fusionné ou qui a fait fusionner ou agglutiner un certain nombre de groupes pour devenir ce qu'on appelle Hayat Tahrir al-Sham, qui en fait contrôle toute l'enclave d'Idlib, qui est également très présente dans la Ghouta.
Parce que ça veut dire, Denis Bauchard, que quand on a une résolution à l'ONU qui est adoptée à l'unanimité pour dire, voilà, il faut qu'il y ait une trêve, mais il y a des exceptions possibles s'il s'agit de combattre des djihadistes, ça veut dire que c'est une façon d'autoriser quand même, malgré cette trêve, la poursuite des combats dans cette zone de la Ghouta orientale.
On peut le craindre, car effectivement, dans la Ghouta orientale, il y a un certain nombre de groupes qui sont à l'évidence l'évidence des groupes terroristes. C'est-à-dire que au départ, lorsque Bachar al-Assad disait « c'est moi les terroristes », il avait tort, mais au fur et à mesure de l'évolution du conflit, il y a effectivement la majorité des opposants se sont radicalisés et peuvent être classés effectivement comme mouvement terroriste.
Mais c'est un véritable jeu de dupe, ça, Caroline Galactaros. C'est-à-dire qu'on signe des résolutions à l'unanimité à l'ONU, mais tous les signataires savent très bien, du coup, que cette résolution ne pourra pas être respectée, les Russes y compris.
Mais je pense que tous les signataires savent très bien qu'il y a des limites au cynisme et qu'on ne peut pas, sous prétexte de protéger des populations civiles, continuer à laisser les groupuscules ultra dangereux, ultra violents et qui n'ont aucun intérêt à aucun accord de paix dans aucune enceinte et à aucun moment, continuer à semer la terreur et se servir des populations civiles. Donc j'allais dire que c'est un mal pour un éventuel bien. Voilà, quant à la continuité entre la partie de la population civile syrienne qui, en 2011, avait des revendications effectivement économiques, sociales, politiques, tout à fait légitimes, et qui a commencé à être, plus ou moins spontanément, mais en tout cas dans la foulée, dans la traînée des printemps arabes, à croire qu'elle pourrait, elle aussi, peut-être, aller vers plus de liberté. Entre cette population-là et les gens auxquels on a affaire depuis 2012-2013, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur Bochard, il y a une grande différence. Aujourd'hui, les gens d'Al-Nosra et compagnie, on va dire, pour faire simple, hein, sous ces différents avatars, sont quand même très peu sont syriens. Ils viennent beaucoup de tout un tas d'autres pays. Ça fait quand même 6 ans que ça dure, comme ça. Donc, dire qu'il y a une continuité...
Et le régime de Bachar el-Assad n'est pas défendu par des milices étrangères.
Si, aussi, bien sûr. Mais c'est un régime légal. C'est un régime élu.
Lui,
c'est
il a le droit de bombarder sa population parce
mais
qu'il a un siège
un
à l'ONU.
Non, mais je ne dis pas que c'est un droit.
L'immense majorité des victimes civiles sont le fait du régime, pas le fait des groupes
mais
que vous qualifiez de terroristes.
Non, l'immense majorité des victimes civiles sont le fait des gens qui se collent autour d'elles, s'en entourent et attendent de dire « Bon, alors, vous allez nous bombarder ? Ah, si vous nous bombardez, attention, c'est horrible. » Et effectivement, c'est horrible. C'est affreux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle est, finalement, l'alternative ? Est-ce que l'alternative, en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et aujourd'hui 2018, aurait été que le régime syrien juste se croise les mains, accepte le massacre de son clan, accessoirement, à la Ouït, bon, tout le monde s'en moque, me direz-vous, et finalement remettre son pays à qui ? À l'Arabie Saoudite ? Au Qatar ? À qui ? À la Turquie ? À qui donc ?
Non,
justement, puisque vous avez posé cette question, quelle est l'alternative ? C'est la question que je vous pose, Pierre-Jean Luizard, et ensuite
alors,
Denis Bochard.
Quelle aurait été l'alternative ? Eh bien, effectivement, là, je n'ai pas de réponse. Encore une fois, la question centrale, il me semble, pour arriver à une solution politique et à une stabilisation qui serait normalement de l'intérêt de tous, c'est qu'il y a un accord entre une société civile syrienne reconstituée et un État digne de ce nom, c'est-à-dire un État des institutions capables d'ouvrir un espace public et une citoyenneté commune. On voit aujourd'hui que l'État syrien est en faillite totale, il n'existe plus et il a été privatisé au point d'être avalé au rang des milices qu'on condamne. Hein, l'armée syrienne est et défend un régime confessionnel et ça a été un choix délibéré du régime de Bachar el-Assad en libérant notamment tous les prisonniers djihadistes qu'il détenait dans des camps pour engager le conflit sur un mode communautaire pour tenter de sauver ce qu'il pensait être l'unique solution pour la sauvegarde du pouvoir de son clan.
Je crois que la confessionnalisation est l'un des plus grands écueils et que précisément, il y a beaucoup de sunnites syriens qui sont tout à fait aujourd'hui, qui ont conscience que le régime les protège. Il faut sortir de ça, il faut revenir à une unité syrienne. Ce que vous avez dit sur l'État, les institutions, moi je trouve ça très juste et très souhaitable. Sauf qu'au point où nous en sommes, tout est fait pour creuser, enfoncer des coins dans les divisions confessionnelles. Il faut sortir de cela, il faut revenir à l'idée, mais il faut revenir à l'idée d'une Syrie unie. Le régime en 2011.
Le régime de Bachar el-Assad, c'est le Hezbollah, c'est la Russie.
Mais pas seulement le régime de Bachar el-Assad, c'était, il n'y avait pas que des Alaouites et des chiites.
Au début, c'était toute la Syrie. Mais maintenant, on est en pleine guerre communautaire.
Oui, parce que d'autres le veulent.
Denis Bochard.
Non, je pense qu'effectivement, le drame de l'opposition, c'est qu'elle n'a jamais représenté une alternative crédible à Bachar el-Assad. Le Conseil national syrien, puisqu'on a appelé la coalition, a regroupé des éléments extrêmement disparates, en rivalité, et jamais n'a été vraiment représentative. D'ailleurs, elle n'a été reconnue que par 7 pays, ce qui est tout de même très peu. Alors, ceci étant, il est clair que le régime actuellement est tout de même très affaibli. Il est très affaibli d'une part parce qu'il y a eu des pertes considérables, pratiquement plus de 100 000 tués dans l'armée et les milices, différentes milices syriennes ou alaouites, mais également parce que les éléments étrangers qui sont intervenus, notamment les Hezbollah, notamment l'Iran, jouent leur jeu et finalement contestent l'autorité du régime.
Et est-ce qu'on peut aussi voir, Denis Bochard, dans le fait que la Russie, alors après plusieurs refus, finisse quand même par signer cette résolution, même si on voit bien que pour l'instant, elle a énormément de mal à être respectée, mais est-ce qu'on peut aussi y voir une façon pour les Russes de sortir d'un soutien qui serait un soutien inconditionnel au régime syrien ?
Je pense qu'effectivement, la Russie est dans une situation embarrassante, finalement. Parce qu'à la fois, elle a sauvé le régime, elle a sauvegardé ses intérêts, son ancrage dans cette zone qui est représentée par la Syrie, où déjà, du temps de l'Union soviétique, il y avait une coopération très très forte. Donc, elle a en quelque sorte marqué des points. Mais on voit très bien qu'il y a de plus en plus un risque d'enlisement, un risque non pas d'un nouvel Afghanistan, mais tout de même des réactions dans l'opinion publique en Russie qui montrent qu'il y a une inquiétude. Et donc, je pense que la Russie essaie de sortir de cet enlisement et essaie de promouvoir une solution politique. Ceci étant, leurs initiatives ont été, le moins qu'on puisse dire, pas couronnées de succès jusqu'à maintenant, avec le fiasco de la conférence de Sotchi, avec aussi ces zones de désescalade qui, en fait, ne sont plus des zones de désescalade et qui sont également à feu et à sang.
Voilà, zone de désescalade qui avait été décidée dans le cadre de l'accord d'Astana. C'était en mai dernier, accord tripartite, Russie, Iran, Turquie. Est-ce qu'on pourrait dire, Pierre-Jean Luisard, peut-être que les Russes ont péché par, comment dire, une sorte d'excès de confiance, pensant peut-être être en mesure de régler à eux seuls le conflit syrien et qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont dans une forme de bourbier et qu'ils ont intérêt peut-être à revenir vers davantage de coopération internationale.
Mais ils se rendent compte, les Russes, comme d'ailleurs tous les acteurs étrangers, la Turquie, l'Iran, les États-Unis, ils se rendent compte qu'à force de jouer sur l'éclatement de la société syrienne et sur sa communautarisation, que ça leur explose au visage et que ça explose au visage de tous les acteurs, étrangers. Il faut rappeler quand même une vérité, hélas historique pour la Syrie, c'est que l'occupation étrangère a toujours correspondu à une communautarisation de la société syrienne. C'était le cas du mandat français avec l'installation d'un état des Alaouites, d'un état du Djebel Druze, etc. Je rappelle que la dernière fois que la Ghouta a été bombardée, c'était en 1946 sur ordre du général de Gaulle. Il y avait eu 2000 morts à l'époque et avant cela, en 1925, contre le mouvement national journaliste arabe à Damas sur ordre du général Sarraï et du général du haut commissaire de Jouvenel qui lui a succédé. Donc on est dans des logiques que la Syrie, hélas, a déjà expérimentées, où l'absence d'État et la mainmise des puissances étrangères empêchent toute société civile de s'exprimer et condamne les uns et les autres à l'affrontement intercommunautaire.
Bon, Caroline Galacteros, le fait est que depuis le début de l'intervention russe en Syrie, c'est quoi, c'est 2015, hein, c'est ça, octobre,
septembre
2015, on peut pas dire que ce soit une intervention qui ait véritablement porté ses fruits, puisque la situation n'en finit pas de se dégrader. Donc, est-ce que la Russie n'a pas aggravé encore ce conflit qui était déjà extrêmement compliqué?
Non, je pense qu'elle l'a retourné. Elle a fait en sorte que ce qui se dessinait ne s'est pas produit. Ce qui se dessinait, c'était le dépecement du pays. Et précisément, je trouve que s'il y a bien une chose que la Syrie cherche à faire, c'est l'inverse de l'éclatement. Donc là, je vois pas très bien.
Par contre, en matière de désescalade et de ces zones de désescalade qui devaient être mises en place.
Mais parce que tout est fait pour pétarder les efforts russes. Je suis désolée.
Mais tout est fait par qui?
Mais par tous les autres, l'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, il faut quand même le dire.
Et pour
le petit groupe américain sur la Syrie, c'est pas un truc qui est sorti de nulle part, ça existe.
Et pour quelle raison?
Mais parce qu'il y a des intérêts sur l'après-Syrie, sur la reconstruction, et surtout, le vrai sujet, c'est la relation américano-russe et américano-iranienne. Et là, il est clair que l'Amérique, qui est en train de reprendre pied militairement en Syrie via les Kurdes, cherche à sortir l'Iran du jeu. Et je dirais que s'il pouvait y avoir, si on cherchait à faire quelque chose d'un peu utile, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait une convergence américano-russe sur un accord politique global, et ce serait tout à fait, à mon avis, souhaitable, et il y a des gens pour cela, simplement, ça voudrait dire que l'Iran s'efface. Donc c'est assez compliqué à concevoir dans le contexte actuel de ce qui se passe aux États-Unis et de la manière dont Israël et l'Iran sont maintenant dans une lutte assez ouverte, même si elle est très largement aussi, si elle est mal interprétée, mais ce sera encore un autre sujet.
J'aimerais savoir en tout cas si Denis Bochard, vous êtes d'accord avec ce que dit Caroline Galacteros en disant tout est fait pour faire capoter justement toutes les tentatives qui sont les tentatives russes de régler ce...
On donne à certains pays ou autres une capacité d'influence, à mon avis, qu'il n'a pas, en tout cas actuellement, sur le plan en Syrie. S'agissant
la France peut-être, mais les États-Unis, ils ont quand même une autre
justement,
une autre
s'agissant distance. Des Américains, il est vrai qu'avec le président Obama, il y a eu un désengagement américain et pratiquement, M. Kerry a en quelque sorte sous-traité aux Russes, sous-traité à Lavrov, un processus de paix. Enfin, essayer de mettre en place une solution politique.
Voilà, Kerry et Lavrov, les ministres des Affaires étrangères respectifs.
Alors, effectivement, il y a un tournant depuis quelques semaines. Il y a eu effectivement la tournée de Rex Tillerson dans la région. Il y a eu la définition, l'esquisse d'une stratégie qui finalement vise beaucoup plus à contrer l'influence iranienne qu'à s'occuper de la Syrie elle-même. Et effectivement, lorsque les Américains veulent, je dirais, former 40 000 Kurdes dans le nord du pays, c'est essentiellement pour lutter à la fois ce qui reste de Daesh, mais surtout empêcher l'Iran d'avoir une continuité territoriale et que l'Iran atteigne la Méditerranée. Je crois que c'est ça l'objectif.
Et puis c'est les zones pétrolières.
L'objectif américain, ceci étant, dans ce domaine comme dans d'autres, il n'est pas sûr que ces déclarations d'attention soient suivies d'effets.
C'est ce qui contribue à être d'autant plus pessimiste, peut-être, Jean Luizard, c'est-à-dire de voir à quel point aujourd'hui ce conflit syrien, finalement, passe presque au second plan par rapport aux intérêts des pays qui ont fini par s'impliquer dans ce dossier. Et on voit bien quels sont les intérêts stratégiques. La population syrienne, dedans, elle passe après.
Oui, ça illustre tout à fait ce que je disais auparavant, c'est-à-dire qu'il y a un vide en Syrie au niveau de l'État et au niveau d'une société éclatée qui permet à des acteurs étrangers d'utiliser la Syrie comme un champ de bataille pour contrer l'influence de l'autre. Donc c'est la Russie contre les États-Unis, l'Iran éventuellement contre les États-Unis, contre les Kurdes, contre la Turquie. Chacun trouve des alliés qu'il clientélise et condamne les Syriens à à une guerre perpétuelle, encore une fois, parce que la seule solution serait interne à la Syrie. Elle ne peut pas venir d'une action extérieure qui exacerbe les tensions communautaires entre Syriens. Et ce consensus aujourd'hui, il est presque impossible tant les Syriens d'une communauté ont peur des autres, hein, et il faut le reconnaître.
Vous citez un certain nombre d'acteurs, il y en a un qu'on pourrait ajouter, qui est Israël. On parle de plus en plus aujourd'hui d'un risque de conflit entre Iran et Israël.
Effectivement, Jean-Yves Le Drian faisait allusion à la question kurde entre la Turquie et le régime de Bachar el-Assad, mais il y a désormais la menace d'une attaque israélienne qui viendrait encore compliquer le conflit, puisqu'elle ferait apparaître l'Iran et le régime de Bachar el-Assad avec le Hezbollah comme les avant-gardes sur le champ de bataille arabe face à Israël.
Il y a quelques jours, il y avait le journaliste Alain Frachon qui, dans Le Monde, faisait un papier pour expliquer que ça n'est pas une, mais trois guerres qui ont lieu actuellement en Syrie, et simultanément, le régime de Bachar el-Assad contre les rebelles islamistes, les Turcs contre les Kurdes et les Israéliens contre les Iraniens. Caroline Galacteros.
Oui, tout à fait. Oui, non, mais là, tout à fait, c'est tout à fait ça. Je voudrais revenir sur la question du processus politique qu'on appellerait tous de nos voeux. Il faut quand même rappeler que Sochi, enfin moi je trouve pas que c'était un échec, Sochi, on l'a dit.
Alors il faut rappeler ce que c'était Sochi.
Sochi, c'est un processus dans la suite d'Astana, récent, qui visait à réunir, à faire un espèce de grand raout d'un millier ou plus de représentants syriens de toutes obédiences et de tout niveau d'ailleurs, pour essayer, et c'est bien ce qui est sorti de Sotchi, de faire un, alors je ne sais plus comment on l'a appelé, un conseil de rédaction de la Constitution.
Oui, voilà. Constitution,
voilà. Hein. Donc si vous voulez, au niveau politique, nous avons un processus de Genève qui depuis des années est au point mort pour des raisons précisément de non-représentativité. Nous avons Sotchi, dont les Russes ont dit par avance, au moment où ils l'ont lancé, de toute façon, on n'en attend pas grand-chose, et on remettra les bébés qui éventuellement en sortiraient dans les mains de l'ONU, dans les mains de Genève. Donc, une manière de réunir les processus, parce que c'est ça qu'il faut arriver à faire. Il faut arriver à ne pas avoir trois scènes parallèle de plus ou moins grande concertation. Le dialogue inclusif national, il a été quand même voulu initier et mis en route par Moscou, Téhéran et Ankara.
Plusieurs niveaux de conflit, Denis Bochard, plusieurs zones de discussion. Vous qui avez été diplomate, ça paraît complètement, je veux dire, inextricable. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'est pas capable déjà de dire finalement assez clairement ce qu'est ce conflit aujourd'hui en Syrie et quel serait l'objectif final. C'est-à-dire, est-ce que la paix, par exemple, c'est ça, ce qu'il faut viser? Est-ce que c'est l'intégrité du territoire syrien?
Effectivement, il y a un empilement de conflits. Je pense d'ailleurs qu'on est plus au niveau de 5, 6, voire 7 conflits différents, entre différents acteurs. On dépasse sans doute assez largement les 3. Et je pense que ceci ne va que s'aggraver. Ceci ne va que s'aggraver avec effectivement l'entrée en scène toute récente d'Israël, qui considère, après avoir, je dirais, éviter de s'engager véritablement et finalement s'accommodant très bien de la présence de Bachar el-Assad, finalement, compte tenu de l'influence qu'a prise l'Iran sur le terrain, commence à s'inquiéter sérieusement. Et donc, entend bien éviter que l'Iran ou les milices chiites développent leur influence à la fois sur la partie syrienne du Golan et puis également naturellement au sud Liban, où construisent des bases permanentes aériennes ou navales.
Donc, est-ce qu'on est en mesure de dire que ça fait partie des intentions iraniennes, justement, ça? Ou bien est-ce que ce sont uniquement, comment dire, des supputations à l'heure actuelle de Denis Bochard?
Je pense que l'Iran avance ses pions de façon insidieuse et efficace. Il faut dire que l'intervention américaine en 2003 a donné à l'Iran un champ libre de développement, avec effectivement le départ de Saddam Hussein qui représenter la seule menace sérieuse contre la sécurité de l'Iran, et avec la mise en place d'un gouvernement chiite au nom de la démocratie, puisque les chiites sont majoritaires en Irak. Et donc, petit à petit, effectivement, l'Iran s'est en quelque sorte profité de cette opportunité pour développer son influence en Syrie, et je pense que l'Iran est présente. L'Iran a une sorte de proconsul qui est Qassem Soleimani, le patron de la brigade Al-Quds, et l'Iran entend bien rester sur place quelque temps, d'où effectivement l'inquiétude d'Israël, et sans doute des bruits de bottes qui commencent à se développer dans cette région.
Il y a eu peut-être quand même dans ce long conflit syrien un moment de relative, disons, mais quand même clarification, c'est-à-dire au moins en termes de priorité pour savoir contre qui se battre. C'était le moment où l'État islamique avait de vraies bases territoriales et en Irak et en Syrie, ce qui permettait à chacune des grandes puissances qui étaient impliquées dans ce conflit de pouvoir dire, ben voilà, notre premier ennemi, disons, c'est Daesh, c'est l'État islamique. Est-ce que l'aggravation aussi de cette guerre, Pierre-Jean Luizard, elle n'est pas liée aussi au fait que Daesh est peut-être devenu, disons, un ennemi comme les autres, qui a été considérablement affaibli et que ça ne permet plus de fédérer et les Russes et les Américains et les Français et les Turcs dans un même combat?
Oui, c'est ce que j'ai appelé le piège Daesh, c'est-à-dire d'inciter les pays occidentaux à rentrer en guerre avant même d'avoir défini une stratégie politique et de pouvoir proposer des solutions politiques. Parce que là, nous parlons de la Syrie qui est à feu et à sang, mais les problèmes s'opposent de la même façon en Irak et au Liban. En Irak, la situation est explosive et il y a un rejet unanime de la classe politique, qu'elle soit chiite, sunnite ou kurde, par une société qui lie confessionnalisme, influence étrangère et corruption. Et on a la même chose au Liban, on l'a vu, qui a hélas expérimenté pendant plusieurs années les conflits communautaires. Donc ce sont bien des crises, une crise régionale à laquelle nous sommes confrontés, qui nous ramène malgré tout, qu'on le veuille ou non, à la genèse de ces États, qui est une genèse mandataire imposée par la force des armes françaises et britanniques contre la volonté d'une majorité des majorités des populations. Il faut rappeler que les Britanniques comme les Français se sont adressés aux minorités en Irak, au Liban et en Syrie pour juguler, pour gouverner et pour imposer un nouveau système politique qui était rejeté par les majorités chiites en Irak, arabes sunnites en Syrie. Et on a créé le Liban. Des élites républicaines et laïques françaises ont créé le Grand Liban pour qu'il y ait un État à majorité, soi-disant, chrétienne au Moyen-Orient.
Mais ça veut dire que s'il y a encore des déflagrations aujourd'hui, on n'a pas fini de voir des conflits dans cette région quand même.
On n'a pas fini parce que le confessionnalisme politique qui règne officiellement ou non en Irak, en Syrie et au Liban, il est très facile d'y rentrer, mais très difficile d'en sortir pacifiquement.
Benny Bochard. On voit un conflit, c'est ce qui s'est actuellement. Avec l'élection de Trump comme président des États-Unis, on est passé d'une politique américaine de normalisation des relations avec l'Iran a eu une politique de regime change, c'est-à-dire de déstabilisation affichée de la République islamique d'Iran. Et actuellement se noue une coalition un peu contre nature entre les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite, justement pour déstabiliser l'Iran par tous les moyens. Et cette stratégie est en train d'être préparé soigneusement, avec effectivement un risque d'un affrontement qui pourrait prendre une dimension militaire dans les semaines ou les mois qui viennent.
Juste d'un mot, Caroline Galacteros. Jean-Yves Le Drian, on a commencé avec lui, on peut terminer avec lui, est à Moscou aujourd'hui. Il ira début mars à Téhéran. Est-ce qu'il y a la nécessité aujourd'hui pour la diplomatie française, en tout cas même si elle n'a pas forcément beaucoup de moyens, que de discuter avec les Russes, avec les Iraniens? Est-ce que ça fait partie de cette géopolitique réaliste que vous prenez dans votre think tank.
Mais bien sûr, c'est fondamental. C'est absolument indispensable de parler avec tous et de s'entendre sur ce qui pourrait être un embryon de position convergente. Parce que sinon, on va passer encore des années à s'affronter les uns les autres avec nos intérêts petits ou grands. Et au milieu, effectivement, c'est le peuple syrien qui meurt.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Caroline Galacteros, Denis Bochard et Pierre-Jean Luizard. Discussion que vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Marine Beccarelli, Antoine Tricot, Isolde Sicard, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec la prise de son Alexandre Dang. La dispute d'Arnaud Laporte, ce sera après le rappel des titres, mais il est déjà là.
Il vaudrait mieux, en effet, hein. C'est quand même dans 3 minutes, j'ai quelques mots à dire. Notamment, vous demandez à Hervé Gardette quel sera le programme et la question du Grain à Moudre demain.
On va parler des cheminots et des fonctionnaires. Faut-il déboulonner les statuts? Statuts TUTS.
Jeu de mots. Le roi du jeu de mots et du calembour. Merci beaucoup Hervé, à demain, 19h, France Culture, les titres de l'actualité.